Le groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne vous présente sa chronique hebdomadaire.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons en direct pour la première fois dans cette année 2024 et je nous renouvelle donc auprès de vous toutes et tous les vœux de bonnes et heureuses années. Dimanche 14 janvier est une journée prévue pour des manifestations, des rassemblements pour obtenir le retrait de la loi Asile-Immigration, loi Darmanin, loi remettant donc en cause un certain nombre de droits concernant donc les personnes immigrées et les personnes étrangères. En ce qui concerne Périgueux, nous n'avons pas à cette heure de décision définitive concernant les initiatives qui seront prises en Dordogne et plus particulièrement sur Périgueux. Et si c'est le cas, ces informations vous seront données lors de la rediffusion de cette chronique jeudi à 16h. Aujourd'hui, je voulais vous parler des élections européennes, ou plus exactement vous faire part d'une déclaration de la Fédération nationale de la libre pensée à propos des élections européennes qui, je le rappelle, auront lieu du 6 au 9 juin 2024 dans les différents pays de l'Union européenne et le 9 juin en ce qui concerne la France. Voici donc cette déclaration. Comme à l'accoutumée, la Fédération nationale de la libre pensée, membre de l'Association internationale de la libre pensée, n'entend pas, à cette occasion, délivrer des consignes de vote ou de non-vote. Elle laisse aux citoyens le droit de se prononcer librement, en votant pour qui ils veulent, ou de ne pas participer à ce scrutin s'ils jugent cette instance hautement contestable, ce qui est tout à fait légitime. La libre pensée inscrit son action dans ce que définissait Jean Massé, le fondateur de la Ligue de l'enseignement, citation, « Nous ne sommes pas là pour faire les élections, mais pour faire des électeurs », c'est-à-dire des citoyens conscients et pouvant se déterminer librement. Nous nous inscrivons aussi dans l'explication du combat de liberté de Léonid Pliouch, ce mathématicien russe qui a été arraché au geôle du système du stalinisme existant donc en URSS. Et donc, voilà ce qu'écrivait Léonid Pliouch. « Voilà ce qui motiva ma protestation sociale, la situation des travailleurs et le krach économique. Car la raison première, ancrée au fond de moi, était mon refus éthique de l'esclavage. Désormais, je veux jouir du droit d'être une personne à part entière, d'user du droit à la libre pensée, à la libre parole, à un travail sensé. C'est fini, je refuse de mentir. » Cette motivation d'être une personne a fédéré toutes les autres. Fin de citation. Notre idéal sur l'Europe a été notifié par le grand libre penseur Victor Hugo dans son discours d'ouverture au Congrès de la paix du 21 août 1849. Un jour viendra où la France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne, absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, toutes nos provinces se sont fondues dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand Sénat souverain qui sera à l'Europe ce que le Parlement est à l'Angleterre, ce que la Diète est à l'Allemagne, ce que l'Assemblée législative est à la France. » Fin de citation de Victor Hugo. On est bien loin de cela aujourd'hui avec l'Union européenne. Ces élections européennes actuelles consisteraient à élire des représentants des peuples pour décider de leur avenir. C'est une citation. C'est en tout cas ce qu'on voudrait nous faire croire. En réalité, il ne s'agit point de là de démocratie, de délégation ou de représentation, mais d'une configuration de subsidiarité où tout est décidé ailleurs. L'Union européenne est le produit de la pression américaine à la fin de la Seconde Guerre mondiale contre l'Union soviétique. Elle repose sur la subsidiarité vaticane et non sur la démocratie, ce au détriment des nations libres et souveraines, supériorité du droit européen sur les droits nationaux, et en dépit des habillages pseudo-démocratiques successifs. élection au suffrage universel direct du Parlement en 1979, instauration d'une procédure de codécision avec le Conseil par le traité de Maastricht, extension de cette procédure qualifiée désormais de procédure ordinaire par les traités d'Amsterdam en 1997, puis de Lisbonne en 2007, faible contrôle dans la réalité de l'action de la toute-puissante Commission. En effet, le pouvoir de décision ne réside pas dans le Parlement européen, mais dans le Conseil européen, dont les membres sont les chefs d'État ou de gouvernement des 27 États membres de l'Union européenne, le président du Conseil européen et le président de la Commission européenne. Le Parlement européen peut émettre des avis, mais l'instance qui décide en dernière instance est le Conseil européen. Celui-ci peut même censurer et refuser les décisions prises par les députés européens. Il n'y a pas délégation de représentation ou représentation, mais subsidiarité qui, selon l'excellente formule du libre penseur syndicaliste anarchiste Alexandre Hébert, se résume ainsi : je décide, tu exécutes. Il faut revenir à la souveraineté du peuple. Les racines de l'Europe, si elles existent, sont celto-gréco-romaines et non d'origine supposément chrétienne. Que nous enseigne-t-elle ? Sous la République romaine, c'est l'Assemblée délibérative, le Sénat, qui incarne l'autoritas, comme l'indique Cicéron, 106-43 avant l'ère vulgaire, cum potestas in populo, autoritas in senatus si, tandis que le pouvoir réside dans le peuple, l'autorité appartient au Sénat. La démocratie européenne est une farce où ce ne sont pas les représentants élus qui décident, mais les exécutifs des États. Notons que Jean-Jacques Rousseau mettait déjà en garde contre la tendance de tout pouvoir exécutif à persister « encore », entre guillemets, et encore en deux mots, c'est-à-dire à prendre le pas sur la souveraineté populaire, la volonté générale, dont il affirme toujours qu'elle ne se délègue pas. Au cœur des années 1930, le philosophe Husserl, dans la crise des sciences européennes, déniait à l'idée d'Europe qu'elle soit assignée à une racine ou à un continent particulier. C'est un projet, le projet de mettre en œuvre une certaine idée universelle de la raison. D'ailleurs, les partisans de l'idée des « racines chrétiennes » entre guillemets, oublient toujours qu'Europe était une princesse phénicienne, fille d'Agénor, roi de Tyr, dans le sud du Liban. On pourrait appliquer à la politique du Parlement européen la formule de Guy Debord dans ses commentaires sur la société du spectacle à propos de la science. On ne lui demande plus de comprendre le monde ou d'y améliorer quelque chose, on lui demande de justifier immédiatement ce qui se fait. On pourrait aussi appliquer aux décisions du Parlement européen la formule de Robert Desnos à propos de Louis-Ferdinand Céline, c'est le besoin d'écrire pour ne pas dire grand-chose. C'est pour aller dans le sens de la reconquête de la démocratie pleine et entière que la libre pensée agit pour l'élection d'une constituante souveraine, pour que soient établies des institutions d'un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Des millions d'habitants en Europe sont exclus du droit de vote. Ce n'est pas un point mineur, loin s'en faut. Puisque l'on parle beaucoup d'immigration dans la période, la question du droit de vote des étrangers hors Union européenne reste posée. Il y en a un peu plus de 7 millions, soit 11% de la population vivant en France, alors qu'ils s'acquittent de toutes leurs charges et des devoirs qui leur incombent du fait de leur résidence dans ce pays. Ils sont totalement exclus du droit élémentaire de voter pour décider de leur avenir. Les élections au Parlement européen privent des millions de personnes en France de l'usage du suffrage universel, fondement d'une véritable démocratie. Quelle légitimité pourrait donc avoir cette élection ? Et pour élire quoi ? Une apparence de Parlement qui ne peut décider de rien en dernier ressort. Ce n'est jamais le subsidiaire qui décide. Le Conseil européen décide, le Parlement européen exécute. C'est cela le principe de subsidiarité, tout droit sorti du droit canon de l'Église catholique. Ce terme, qui n'est pas dans le dictionnaire, mais dans le droit canon, a été employé pour la première fois dans une encyclique qui s'appelle « Quadragesimo anno », formulée en 1931 pour le 40e anniversaire de la première encyclique sociale de Léon XIII qui s'appelait « Rerum Novarum ». L'encyclique « Quadragesimo anno » de Pie XI avait pour but de tirer le bilan précis de 40 années de doctrine sociale de l'Église. Elle a rendu un hommage public à l'organisation fasciste italienne et au syndicat fasciste italien. La première fois que le mot subsidiarité a été employé, c'est un hommage au fascisme. Ce principe a été défini par son auteur de la manière suivante. Citation. Que l'autorité publique abandonne donc au gouvernement de rang inférieur le soin des affaires de moindre importance ou se disperserait à l'excès son effort. Elle pourra dès lors assurer plus librement, plus puissamment, plus efficacement les fonctions qui n'appartiennent qu'à elle parce qu'elle seule peut les remplir. Ces fonctions sont diriger, surveiller, stimuler, contenir, selon que le comportement et les circonstances ou la nécessité l'exigeront. Fin de citation. Et c'est sans commentaire, ça se suffit à elle-même, cette citation. On a traduit le principe de subsidiarité par cette formule populaire « ne jamais confier à un organisme de rang supérieur ce qui peut être fait par un organisme de rang inférieur ». À l'évidence, cela pourrait sembler logique. Mais si on examine l'histoire, la société qui a réalisé le plus complètement possible le principe de subsidiarité, c'est la France d'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime, les pouvoirs de l'État se réduisaient aux pouvoirs régaliens. La police, l'armée, la justice, les tribunaux, c'est-à-dire l'appareil de répression. Tout ce qui caractérise une société moderne, l'école, la santé, le prélèvement d'impôts, tous ces éléments fondamentaux ont été confiés à des organismes de rang inférieur. Pour la plupart d'entre eux, c'était bien évidemment l'Église qui s'occupait de la charité, de la bienfaisance, d'un semblant d'éducation et d'un semblant de santé. La récolte de l'impôt était confiée aux fermiers généraux, qui se servaient largement au passage, un tiers des montants collectés. C'est-à-dire que tout ce qui caractérisait le fonctionnement d'une société moderne était confié à des organismes de rang inférieur. Constatons aujourd'hui que lorsque l'on privatise les services des eaux, les pompes funèbres, les services de cantine scolaire, les transports, l'énergie, quand on organise le prélèvement de l'impôt par l'employeur directement sur le salaire, on en revient à la France d'Ancien Régime. C'est-à-dire que l'on confie à des organismes de rang inférieur ce qui devrait appartenir à l'État, à la République et aux collectivités territoriales. La Révolution française de 1789 a brisé l'Ancien Régime et le principe de subsidiarité, qui n'était pas encore formellement codifié théoriquement, mais qui existait dans la pratique. Elle a institué une société dans laquelle on a toujours confié, pour assurer l'égalité des citoyens devant la loi, à des organismes de rang supérieur les missions d'une société moderne et démocratique. Ce qui caractérise la Révolution française et la République, c'est que pour assurer l'égalité des citoyens devant la loi, on a créé la notion de service public. Ce qui caractérise aujourd'hui le retour de l'Ancien Régime et le principe de subsidiarité, c'est que pour refuser l'égalité des citoyens devant la loi, pour donner et confier à des organismes de rang inférieur, on privatise et on détruit le service public. Le fédéralisme européen comme une odeur du régime de Vichy. Notons aussi un autre aspect important. On veut nous vendre l'idée que l'Union européenne serait les États-Unis d'Europe, auxquels beaucoup aspirent légitimement. Or, l'Union européenne ne fonctionne pas sur le principe du confédéralisme, qui seul pourrait peut-être assurer une véritable égalité des pays et des peuples, mais sur celui du fédéralisme, qui cadenasse toute volonté libre par une autorité qui impose et non qui propose au libre choix des peuples et à la libre décision de leurs représentants élus. La différence entre l'autorité supérieure fédérale, héritée de la pensée féodale, et l'autorité centrale, héritée de l'État moderne, est que l'autorité féodale est entre les mains d'une instance collégiale composée de membres qui sont chacun porteurs d'une autorité irrésistible dans le précaré qu'ils représentent. C'est leur union qui rend la décision incontestable, mais le fait que ces détenteurs du pouvoir soient chacun censés représenter un secteur du corps politique permet de maintenir la fiction d'une décision prise en bonne intelligence avec le fameux bien commun. C'est bien sûr le Conseil européen qui remplit ce rôle. On reconnaît la doctrine corporatiste chrétienne. Le corps politique n'a pas d'unité. Il n'est qu'une juxtaposition de corps intermédiaires organisés verticalement, dont les chefs, par une heureuse harmonie, doivent trouver ensemble un mystérieux bien commun. Toute cette pensée est tournée contre le concept d'intérêt général et nie la possibilité même d'une volonté générale et d'un corps civique directement souverain. Les institutions de l'Union européenne réalisent le programme des anti-lumières. Notons aussi qu'Antonin Cohen, dans son ouvrage essentiel « De Vichy à la communauté européenne », note, c'est citation, « L'expression « communauté européenne » n'a pas été choisie au hasard en 1950, pas plus qu'elle n'a été inventée par Jean Monnet. Elle vient de l'école des codes du régime de Vichy-Duriage en 1942. Il ne s'agit pas d'une expression, mais d'une politique globale, disparition des nations, mise à l'écart du suffrage universel, organisation du corporatisme, mise en avant du bien commun. » Dans son ouvrage « La cavale des collabos », qui traite de ce qu'il est advenu des collaborateurs du régime de Vichy au service d'Hitler, François Broche, son auteur, note « Le discours européen, citation, vient ici en évident écho du vieux dogme pétainiste de la structuration décentralisée de la nation française autour de cellules familiales, professionnelles, communales et régionales. » Le fédéralisme est d'essence à la fois corporatiste et communautaire, et la fédération est le produit rénové des mobilisations qui ont vu le jour au début des années 40 autour de la définition d'une révolution nationale et plus généralement de la révolution conservatrice des années 30. Dans cette perspective, elle apparaît comme le stade ultime de la survie-mutation d'anciens collabos derrière l'alibi d'une troisième voie entre le libéralisme et le socialisme. Raymond Aron constatait que le thème de l'Europe, qui avait joué un si grand rôle dans la propagande hitlérienne, reparaissait dans la propagande des Nations Unies. « Je ne vois d'ailleurs aucun scandale, commentait-il, même quand ce sont les mêmes hommes, ce qui peut arriver, qui traitaient il y a quelques années le thème et qui le traitent à nouveau aujourd'hui. Après tout, c'est peut-être une manière de rendre hommage à une nécessité historique inéluctable. » Ainsi donc, c'est l'Europe hitlérienne qui a porté l'Union européenne sur les fonts baptismaux, et c'était selon Raymond Aron un hommage mérité. Quel aveu ! La libre-pensée qui a toujours caractérisé l'Union européenne comme vaticane doit donc rajouter « hitlérienne » à sa définition. C'est l'alliance revisitée et modernisée du sabre et du goupillon, l'alliance du panzer et de la papa mobile pontificale. Il faut néanmoins dire aussi que l'affirmation de la nouvelle Europe était plus l'apanage de Goebbels que d'Hitler, ce que n'y retire rien au caractère nazi de l'affirmation. Là où les nazis étaient sincèrement européens, c'était dans leur obsession de distinguer l'Europe de l'Orient, comprendre le monde sémitique. Nous combattrons toujours la nuit faite dans les esprits par l'ombre des soutanes. C'est une citation de Victor Hugo. En 1952, notamment sous l'impulsion de Robert Schuman, ministre MRP, démocrate chrétien, des affaires étrangères, et de Jean Monnet, s'est formée par le traité de Paris la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, dissoute le 22 juillet 2002 par l'instauration du traité de Maastricht. La CECA est devenue le moule de l'Europe des six, puis de l'Union européenne. Il est habituel d'ironiser sur le fait que l'œuvre majeure de la Communauté européenne du charbon et de l'acier fut de détruire l'activité minière des charbonnages et la sidérurgie européenne. C'est en tout cas la constatation que l'on peut faire sur la désindustrialisation du continent. Ce qui saute aux yeux, c'est l'inspiration démocrate chrétienne de l'Union européenne. Robert Schuman est un catholique militant qui vote avec enthousiasme les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en estimant qu'il fallait rendre les armes. Ministre de Vichy, les frapper d'indignité nationale et devra à Charles de Gaulle son blanchiment et son retour en politique. En 1947, il est président du Conseil, puis ministre des Affaires étrangères sous l'étiquette de Mouvement républicain populaire, MRP, le Parti démocrate chrétien français. Quant à Jean Monnet, on sait maintenant que c'était un agent américain partisan de l'effacement des nations dans l'Union européenne. Si la Communauté européenne du charbon et de l'acier s'est peu préoccupée des questions religieuses, elle a implanté durablement la démocratie chrétienne dans les institutions européennes. Le dirigeant socialiste SFIO, Vincent Auriol, déclarait « L'Église a fait la triple alliance, Adenauer, Schuman, Gasperi, trois tonsures sous la même calotte. » Les symboles de la Communauté européenne puis l'Union européenne sont directement hérités du mouvement Union pan-européenne internationale de Richard Kudalov Kalergi, 1894-1972, nostalgique avoué de l'Imperium Sacrum pour qui l'Empire, l'Europe unie devait hériter de la mission du Saint-Empire des Habsbourg, autour de Habsbourg. Celui-ci, devant hériter du trône impérial, en fut ensuite le président à l'époque où il siégeait au Parlement européen, où il défendit les points de vue du catholicisme le plus réactionnaire. Le grand prix de la construction européenne, le prix Charlemagne, compte parmi ses récipiendaires une flopée de dignitaires démocrates chrétiens. Donc Koudenov-Kalergi, 1950, Gasperi, 1953, Monet, 1953, Adenauer, 1954, Robert Schuman, 1958, mais aussi, pour faire bonne mesure, Juan Carlos de Bourbon, usurpateur du pouvoir monarchique dans l'État espagnol, 1982, ou le pape François en 2016. Quant au drapeau européen, on sait depuis longtemps, de l'aveu même de son concepteur, que c'est le drapeau de la Vierge Marie recyclé pour l'occasion. Quant à son hymne « L'ode à la joie », c'est une version de la partition de Beethoven, adaptée par le chef d'orchestre Herbert von Karajan, ancien militant convaincu du parti nazi NSDAP, dans la droite ligne du régime nazi, qui fit jouer pour la première fois « L'ode à la joie » en hommage à l'Europe aux Jeux olympiques d'Hitler à Berlin en 1936. La campagne menée depuis longtemps pour inscrire les racines chrétiennes dans les traités européens et maintenant dans la Constitution française s'inscrit pleinement dans l'offensive cléricale qui se déchaîne aujourd'hui sur un fond de xénophobie anti-musulmane. En tout cas, leurs intentions véritables n'étaient pas évidemment, ou sans doute, de reconnaître par cette référence aux dites racines chrétiennes le caractère complètement artificiel de l'Union européenne. C'est-à-dire cet assemblage laborieux que le Vatican a contribué si puissamment à créer. Le problème est que les peuples ne sont pas disposés à reconnaître l'autorité du dit assemblage et que face à cette résistance de plus en plus marquée, génératrice d'une crise politique profonde, les héritiers de ces pères fondateurs voudraient ainsi donner ou redonner sans cesse des lettres de noblesse très significatives à leurs yeux. Car ce qu'ils veulent dire, c'est que l'Europe comme continent et assemblage de peuples trouve son unité, son sens dans le christianisme. Autrement dit, ils proclament que l'Union européenne d'aujourd'hui, bénie par eux, est l'aboutissement de l'histoire, le terme enfin atteint par toute l'évolution qui a précédé cet avènement. Ce serait faire tourner la roue de l'histoire à l'envers. La nostalgie de l'Empire européen est un signe de ralliement des ennemis de la Révolution française, tantôt sur une base ethnique, l'Europe nouvelle des nazis, tantôt sur une base religieuse, Koudenov, Kalergi, Adenauer, le Vatican, etc. Tout commence en mystique et s'achève en politique, disait Charles Péguy. Puisque feu Jacques Delors avait tenté vainement de trouver une âme à l'Europe et que l'on juge un arbre à ses fruits, évangile de Matthieu. Libre pensée, livre à la méditation de tous, c'est quelques fêtes. Quand les Hollandais et les Français ont refusé le projet de constitution européenne, traité de Lisbonne, les exécutifs européanistes ont passé outre et ont fait ratifier la dite constitution par leur parlement Godillot. Bel exercice de respect de la démocratie. Au moment de l'élaboration de la dite Constitution européenne, une délégation européenne de la libre-pensée a été reçue à la Commission européenne par le docteur Winiger, responsable des relations avec les religions à l'Union européenne. La libre-pensée lui posa une question directe. Pourquoi y a-t-il deux articles pour traiter des relations de l'Union européenne avec la société civile, d'une part, et un autre pour les religions ? Les religions ne sont-elles pas partie de la société civile ? Quelque peu interloqué par cette question, on a dû friser le délit de blasphème, le docteur Winiger répondit « Parce que la société civile, c'est l'immanence et que les religions sont la transcendance. On peut légitimement demander quelle compétence à l'Union européenne pour décider ce qui relève des gueux d'un côté et de Dieu de l'autre. À la question « Où placez-vous la libre pensée dans ce choix ?» il répondit après un long moment de réflexion « Dans la transcendance. Cela a changé notre vie depuis. Tout le monde n'a pas la chance d'être transcendant. » La Constitution européenne, donc autre fait qui est soumis à la réflexion, a dans l'article 37C intégré toutes les relations entre les églises et les États de différents pays membres de l'UE. Église officielle, église établie, concordat et de séparation comme en France, avec les exceptions anti-laïques, Alsace-Moselle, Guyane, Mayotte, etc. Ce qui fait que tout cela est intégré tel quel dans la Constitution européenne, qui ne peut être modifiée, pour tenir compte par exemple de l'abrogation revendiquée du statut clérical d'exception d'Alsace-Moselle, si on l'obtenait, que par l'unanimité des États membres. Autant dire que ce n'est pas demain la veille que les pays cléricaux et réactionnaires, pléonasmes, en Europe, accepteront le principe de séparation des églises et d'États dans un quelconque pays ou une région d'un pays. Il y eut en 2013 une déclaration commune entre l'Union européenne, Madame Ashton, ministre des Affaires étrangères de la Commission européenne, et l'Organisation de la coopération islamique pour condamner le blasphème des religions où l'on pouvait lire « Nous croyons en l'importance de respecter tous les prophètes, quelle que soit la religion à laquelle ils appartiennent ». Rappelons qu'un grand nombre d'États composant l'Union européenne répriment pénalement ce qu'ils appellent le délit de blasphème, terme moyenâgeux pour protéger les dogmes et interdit religieux contre toute critique. La libre pensée prit donc l'initiative d'une autre déclaration commune de 55 associations laïques en Europe pour exiger le retrait de cette déclaration commune UE-OTI, voire lisse en annexe. Bien entendu, l'Europe Vaticane refusa d'accéder à cette exigence laïque et démocratique. Pour la laïcité en Europe, la libre pensée en action. Le 21 juin 1998, la libre pensée et l'Union mondiale des libres penseurs organisaient une manifestation à Bruxelles contre l'Europe Vaticane, qui fut un moment important dans la reprise de l'action internationale de la libre pensée. Alors, je vais sauter une partie de cette déclaration parce que je vais dépasser le temps qui nous est imparti pour en revenir à la conclusion. Et vous pourrez retrouver cette déclaration sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée. Il y est déjà placé. Et très prochainement sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr. Donc voilà. Pour terminer cette déclaration générale sur les élections européennes, la libre pensée propose un quiz à deux questions. Quelle est la nature politique des institutions de l'Union européenne, monarchiste ou républicaine ? Cette question est essentielle, elle traverse toute l'histoire du continent européen et l'Union européenne ne peut s'exonérer de cette problématique. Deuxième question, alors que l'Union européenne se mêle de tout ce qui concerne les millions d'Européens, de la plus petite chose à la plus grande, pourquoi n'a-t-elle pas choisi de faire mettre en œuvre le principe de séparation des églises et de l'État, véritable fondement de la démocratie laïque, au lieu de protéger les églises officielles d'État et les concordats ? Le gagnant ou la gagnante sera nommé au prix Charlemagne qui sera titulé par le Vatican et retiré à Bruxelles. Vous avez maintenant tous les éléments pour faire un choix raisonné le 9 juin 2024, ni Dieu ni maître, avant la calotte, et vive la sociale. Alors pour terminer cette émission, je reviens sur un point qui est cité dans le texte que je viens de lire, qui concerne l'ode à la joie, l'hymne européen. La revue Diapason, qui à ma connaissance n'a pas d'orientation particulièrement déclarée sur ces questions-là, a repris dans un article paru en 2020 une étude faite et qui avait été publiée, je crois, au départ dans Le Monde, une étude révélée par Esteban Butch, historien et anthropologue, spécialiste des rapports entre la politique et la musique et auteur d'un brillant essai sur la symphonie numéro 9. Alors que dit Diapason ? Vous pensiez que l'hymne européen est de la main de Beethoven ? La réalité n'est pas si simple et surtout pas si reluisante. Or, vu le passé du célèbre chef d'orchestre, donc le chef d'orchestre Karajan a retouché donc la 9e symphonie pour en faire l'hymne européen. Karajan sollicita à deux reprises son adhésion au parti nazi. Par conviction, par opportunisme, on n'a pas fini d'en débattre. Esteban Busch a raison de souligner que les emblèmes, en l'occurrence un hymne, sont tenus à l'exemplarité sous peine d'affaiblir les valeurs dont ils sont la représentation sensible dans l'espace public. Faut-il pour autant le suivre lorsqu'il voit dans la modeste contribution de Karajan la trace persistante de l'organisation responsable de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah sur le symbole d'une Europe qui prétend faire des droits de l'homme et de la démocratie le socle moral de son projet politique ? Peut-être pas, car ce que l'on entend quand on résonne l'ode à la joie, ce n'est évidemment pas le nazisme, sincère ou non, réfuté ou non, de Karajan, et ce n'est pas même son arrangement demeurant fort discret, c'est la musique de Beethoven et l'universel message de fraternité du poème de Schiller dont elle est porteuse. Mais le plus gênant dans cette histoire, et cela rendons grâce à Bush de l'avoir révélé, c'est que von Karajan, en dépit des nombreuses demandes qui lui ont été adressées, n'a jamais renoncé à ses droits d'auteur. Au contraire, plusieurs textes montreraient la ténacité avec laquelle il refusa toute concession sur ce point et insista pour que la partition et l'enregistrement se fassent avec ses partenaires de travail habituels, Schott et la Deutsche Grammophon. En d'autres termes, poussé par son incurable vénalité, le chef avide du Philharmonique de Berlin a flairé dans cette opération un bon moyen d'engranger de rondelettes royalties. Et ce faisant, oui, il a anéanti toute possibilité d'envisager son association, même symbolique, au plus éclatant des projets de paix à l'Union européenne. Je laisse cette appréciation à la revue Diapason. Voilà, nous en avons terminé pour cette chronique. Donc, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller.
Vous venez d'entendre le groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pouvez réentendre nos émissions sur Radio Libre en Périgord, sur notre site www.lpdordogne.wordpress.com.